Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver avec au programme cette année le développement d'un sujet que je n'avais fait en réalité qu'effleurer l'an passé, celui de la localisation spatiale de la source sonore. C'est donc non seulement au système auditif périphérique, mais aussi au système auditif central que nous allons nous intéresser. Le système auditif, je vous le rappelle, est composé d'un système périphérique et d'un système central. Le système périphérique, ici entouré en bleu, correspond aux dérivés de la placode otique que sont les cellules cochléaires, cellules sensorielles auditives et cellules non sensorielles, ainsi que les neurones qui les innervent, les neurones afférents. Alors, ces neurones sont d'une part porteurs de l'information qui a été traitée au niveau des cellules sensorielles auditives. À leur tour, ils traitent cette information et vont la transférer au niveau du système auditif central. Ce système auditif central, il débute avec le noyau cochléaire et se termine au niveau des aires corticales auditives primaires et secondaires. Alors, en faisant une telle présentation, je n'ai mentionné que les voies afférentes. Il existe également des voies descendantes, efférentes, beaucoup moins développées que les voies ascendantes et dont le rôle est aujourd'hui beaucoup plus mal connu. Et pour la première fois dans cette série de cours, j'aborderai cette année le rôle du système efférent. Alors aujourd'hui, le titre du cours était « Actualité cochléaire » et indiquait la discussion des points suivants. Pourquoi la cochlée est-elle spiralée? Bien sûr, je vais y revenir. Repenser le rôle de la membrane tectoriale. Alors, je vais en réalité dire seulement quelques mots sur le sujet « Pourquoi la cochlée est-elle spiralée ?» Je ferai de même sur le thème « Repenser la membrane tectoriale » puisqu'après cette présentation, Jonathan Ashmore, notre invité d'aujourd'hui, donnera un séminaire sur ces deux thèmes et principalement, il incorporera principalement dans sa présentation les données récentes en ce qui concerne la réponse à la question « Pourquoi la cochlée est-elle spiralée ?» Alors, en conséquence, j'ai décidé, après donc une brève introduction sur ces deux points, où je prendrai le point de vue du biologiste, laissant à Jonathan Ashmore le point de vue du biophysicien, de me concentrer davantage sur un autre type d'actualité, celui qui concerne la synapse. Pourquoi ? Parce que lorsque nous discuterons de la localisation de la source sonore, et j'y reviendrai, le rôle de cette synapse, les propriétés de cette synapse sont tout à fait essentielles. Donc, il m'a paru important de commencer par une mise au point des données, disons, rapportant les données les plus récentes en ce qui concerne le mode de fonctionnement de la synapse entre les cellules sensorielles auditives et les neurones afférents. Alors, pourquoi la cochlée est-elle spiralée? Alors, vous la voyez ici donc l'oreille interne qui fait suite à l'oreille externe, l'oreille moyenne, et qui est composée, cette oreille interne, de la cochlée et du vestibule, organe de l'équilibre. Première question, quand l'organe sensoriel devient-il spiralé dans l'évolution? Alors, il ne l'est pas. Alors, vous voyez ici cette cochlée spiralée. Il ne l'est pas chez les reptiles, les oiseaux. Il ne l'est pas non plus chez les premiers mammifères, les monotrèmes, dont le représentant le plus connu est l'ornithorynque. L'enroulement apparaît juste après l'émergence des monotrèmes, c'est-à-dire qu'il apparaît chez les thériens, mammifères les plus primitifs après les monotrèmes, il apparaît chez les marsupiaux. Alors la question, à quoi sert cette spiralisation cochléaire? Eh bien, je dirais, la réponse qui en avait été apportée jusqu'à présent était relativement triviale. Gain d'espace, vous pouvez lire dans tous les manuels. Gain d'espace, bien sûr, puisque spiralée, elle vient se loger dans une cavité osseuse, la cavité de l'os temporal, qui donc va pouvoir abriter un nombre important de spires, puisque ces spires vont être une longueur importante de cochlée, puisque sous forme spiralée, l'ensemble va pouvoir être compacté. Alors, vous l'avez remarqué, la spiralisation de la cochlée n'est pas homogène. Son rayon de courbure, d'abord important à la base de la cochlée où s'analysent les hautes fréquences, devient de taille plus petite à l'apex de la cochlée où sont analysées les basses fréquences. Alors, ce qui était dit, c'est très bien, la cochlée étant spiralée, elle peut s'allonger à volonté durant l'évolution, et donc, dans un plus petit volume, s'allongeant, on va être capable de traiter une gamme de fréquences plus élargie. Alors, pour certains, cette spiralisation de la cochlée s'accompagnait d'un gain de perception des hautes fréquences. Or, en réalité, l'élargissement du spectre fréquentiel audible durant l'évolution des mammifères s'est fait aussi bien du côté des hautes fréquences que des basses fréquences. On peut dire que les mammifères ne sont pas spécialisés dans la perception des hautes fréquences ni dans la perception des basses fréquences, puisque les hautes fréquences existent chez l'oiseau sans spiralisation de l'organe sensoriel auditif, et les reptiles, pour lesquels la cochlée, je vous l'ai dit, est aussi linéaire, répondent aux basses fréquences. Alors on doit à Richard Chadwick d'avoir eu l'idée suivante, d'avoir pensé qu'il existait un parallélisme entre la limite inférieure des fréquences que peut déceler un organe sensoriel auditif et sa spiralisation. Il a vu une analogie qui en réalité avait déjà été relevée par Lord Rayleigh en 1945 dans sa théorie du son entre la cochlée et ce que l'on appelle là ou les galeries des chuchotements. Whispering Gallery. Dans une telle galerie circulaire, vous en avez sans doute déjà fait l'expérience, un locuteur qui chuchote le long de la paroi peut être entendu par un auditeur placé à grande distance et à l'opposé. Alors, Jonathan Ashmore reviendra sur ce sujet. Et il est légitime qu'il s'intéresse à ce sujet à deux titres. Il s'agit essentiellement d'un sujet qui fait appel à la biophysique. Et d'autre part, l'exemple le plus souvent cité des galeries des chuchotements est celui de la cathédrale Saint-Paul de Londres. Et Jonathan Ashmore nous vient de Londres. J'imagine en tout cas qu'il projettera, Jonathan, quelques diapositives de cette galerie.
Non, pas encore.
Très bien. Alors, dans une première série d'expériences, Daphne Manoussaki et Richard Chadwick avaient montré une corrélation entre le rayon de la spire la plus élevée, le plus petit rayon, c'est-à-dire, je vous rappelle, celle au niveau de laquelle s'analysent les basses fréquences et les fréquences les plus basses que les diverses espèces sont capables de déceler. Ces travaux avaient été publiés en 2006. Reprenons la même idée, ces auteurs, cette fois-ci avec Manley, l'affinent et montrent qu'en réalité, ce qui est déterminant dans la capacité à analyser les basses fréquences, c'est le fait que l'énergie acoustique, ce qui se propage de la base à l'apex, vient se focaliser sur le mur externe de la cochlée et que ce qui est en proportion avec l'aptitude à déceler les basses fréquences, c'est un rapport et non simplement la taille de ce rayon, mais bien un rapport entre le rayon engendré par la région, la spire qui correspond aux hautes fréquences, sur le rayon de la spire qui correspond aux basses fréquences. Et ces auteurs établissent cette corrélation que vous voyez ici, donc ce rapport entre ces deux rayons et la limite inférieure des fréquences décelées, ici donc dans différentes espèces, et vous voyez l'excellente corrélation. Alors il s'ensuit que aujourd'hui, ce n'est plus de la science-fiction, mais nous allons être en mesure de déduire ce que nos prédécesseurs, en quelque sorte, percevaient comme fréquence auditive. Alors, vous savez que quantité de mammifères ont disparu, 80% des espèces de mammifères sont aujourd'hui fossilisées. Eh bien, par ces rapports de courbure, on peut se prendre à rêver que l'on saura comment ils localisaient des proies et des prédateurs. Alors maintenant, je vais dire quelques mots du deuxième thème qui concerne la membrane tectoriale. Mais je voudrais, en conclusion, dire à quel point c'est-il ce que l'on vient de voir est illustratif des mouvements de la science qui croient pendant un moment, sans l'avoir véritablement démontré, que la cochlée, l'exemple ici, à mon avis, est particulièrement intéressant, que la cochlée s'est simplement spiralée pour la raison naïve, en quelque sorte, pour occuper un espace minimal. Et finalement, comme vous le verrez, on termine par une très belle physique qui explique en quoi la spiralisation de la cochlée permet de déceler des basses fréquences. Alors, quelques mots en ce qui concerne la membrane tectoriale. Alors, avant d'introduire la membrane tectoriale, je vais brièvement vous rappeler l'organisation de la cochlée dans sa partie, en quelque sorte, à l'intérieur de la cochlée. Alors, vous voyez ici une cochlée ouverte, un tour de spire ouvert, avec le neuroépithélium auditif, avec ses cellules sensorielles, cellules ciliées internes, seule authentique cellule sensorielle, qui donc envoie un message le long des neurones afférents du long des neurones auditifs. Les cellules ciliées externes, dont Jonathan vous parlera longuement, qui sont essentiellement des amplificateurs cochléaires, le tout donc logé dans cet organe, ce neuroépithélium auditif que l'on appelle organe de Corti. Et cet ensemble est pris en sandwich entre deux membranes, ou plutôt une membrane acellulaire que l'on appelle la membrane basilaire, et un gel acellulaire, donc que je vais maintenant discuter, qui s'appelle la membrane tectoriale. Et donc, ces cellules sensorielles, vous voyez ici leur apex formé de cette touffe ciliaire composée de microvillosités remplies de filaments d'actine, microvillosités rigides. C'est dans cet ensemble que s'opère la mécanotransduction électrique, c'est-à-dire la conversion de la stimulation mécanique en stimulation électrique. Les cellules ciliées externes ont leur touffe ciliaire ancrée dans la membrane tectoriale et les cellules ciliées internes ont des touffes ciliaires libres. Alors, vous le savez, une des principales activités de la cochlée, c'est l'analyse fréquentielle. C'est-à-dire que ce que nous percevons, notre environnement, sont des sons complexes et ce que fait la cochlée, elle travaille à la façon d'un analyseur fréquentiel de Fourier, elle va décomposer le spectre complexe de fréquences en ses fréquences élémentaires. Alors, je ne reviens pas sur la membrane basilaire, dont vous voyez ici illustré le mouvement et qui se comporte intrinsèquement comme un analyseur fréquentiel. Pourquoi cela ? Parce que ses propriétés biophysiques sont continuellement variables de la base à l'apex de la cochlée. Elle est en particulier très rigide à la base et souple à l'apex. En conséquence, les fréquences les plus basses engendreront un déplacement maximal de cette membrane basilaire en un point donné de la cochlée située à l'apex. Les fréquences les plus élevées engendreront un déplacement à la base de la cochlée et donc au total, c'est une analyse spectrale qui est effectuée à laquelle on convient d'associer également les cellules sensorielles. Vous le voyez, les cellules sensorielles qui sont disposées sur cette membrane indirectement, mais qui sont en rapport, mais couplées mécaniquement avec cette membrane, de la base à l'apex, ont des tailles différentes et elles ont des rigidités différentes de leur corps cellulaire comme de leur touffe ciliaire. Par conséquent, elles participent elles aussi à l'analyse fréquentielle. Alors, quoi de neuf en ce qui concerne la membrane tectoriale ? Alors, juste pour vous rappeler sur ce schéma qui n'est pas tout à fait exact, mais qui donne quand même l'essentiel du message, à savoir que lorsque l'onde sonore se propage dans les liquides de la cochlée, elle va déformer cette membrane basilaire, comme on l'a vu tout à l'heure, et par un mouvement de cette plaque rigide qui correspond à la région apicale des cellules sensorielles et non sensorielles, et un mouvement radial de la membrane tectoriale, la touffe ciliaire va être défléchie, ce qui va engendrer l'ouverture des canaux de mécanotransduction. Potassium et calcium pénètrent alors dans la cellule et la dépolarisent. Alors la membrane tectoriale, c'est un peu plus complexe que le petit schéma que j'ai présenté tout à l'heure. D'abord, ces trois axes. L'axe longitudinal, qui court de la base à l'apex de la cochlée. L'axe radial, donc l'axe longitudinal comme ça, l'axe radial qui est l'axe de déflexion des stéréociles, et troisième axe, l'axe transversal de la base à l'apex. Sa composition, elle est faite d'une part de fibrilles de collagène que l'on peut déceler en microscopie électronique. Collagène de type 2, 9 et 11, et de trois glycoprotéines non collagéniques qui sont figurées ici en bas, deux qui sont appelées tectorines puisqu'il s'agit de la membrane tectoriale, A et B, et une autre autogéline. Ces molécules sont apparentées. Les deux tectorines, alpha et bêta, ont en commun ce domaine que l'on retrouve à la surface de l'œuf. La tectorine alpha et l'autogéline partagent, elles, plusieurs répétitions qui sont numérotées ici, qui correspondent à des domaines que l'on trouve dans le facteur de von Willebrand. Donc retenez des molécules apparentées. Alors, ce qui a été démontré récemment, c'est le fait que la membrane tectoriale propage les vagues sonores. Il n'y a pas que la membrane basilaire qui propage les ondes sonores, mais la membrane tectoriale le fait aussi. Elle est le siège de vibrations multimodales. Alors, cette membrane tectoriale, elle est ancrée, vous la voyez ici, couvrant le neuroépithélium auditif. Elle est ancrée dans sa partie externe au niveau de la région limbique et elle a des relations, elle a des contacts physiques avec le neuroépithélium auditif. Ils sont au nombre de deux, essentiellement. Le premier correspond à ce ruban ou ruban de Hansen qui établit une connexion entre la surface inférieure de la membrane tectoriale, vous voyez ici en réalité, et la partie interne de la cellule ciliée interne. Autre contact, c'est ce que l'on appelle la membrane de Kimura et qui se situe juste au-dessous de la membrane tectoriale et qui est directement en contact avec le sommet des touffes ciliaires des cellules ciliées externes. Les stéréocils sont ancrés dans cette membrane de Kimura. Alors, qu'est-ce qui a été montré ? Alors, on savait que cette membrane tectoriale a des dimensions qui varient de la base à l'apex de la cochlée, tout comme la membrane basilaire. Eh bien, ce qui a été montré, c'est que sa rigidité n'est pas homogène de la base à l'apex de la cochlée. Elle n'est pas homogène, ce sont des expériences qui ont été réalisées in vitro. Elle varie tout le long de la membrane de Kimura. Elle varie dans le sens radial et elle varie dans le sens transversal. Alors, cette membrane basilaire a une fréquence de résonance, et ça on le savait, qui n'est pas la fréquence de résonance en un point donné de celle de la membrane basilaire. Il y a une sorte de décalage, voilà, qui est illustré ici, pour une fréquence donnée, ici sur la membrane basilaire, ici sur la membrane tectoriale. Alors, cette fréquence se situe un demi-octave au-dessus pour la membrane basilaire par rapport à la membrane tectoriale. Et c'est en raison de cette propriété que l'on conclut que la cellule ciliée externe, stimulée par le déplacement de la membrane basilaire, est stimulée en ce qui concerne le mouvement radial de la membrane tectoriale, non pas en raison d'une réponse fréquentielle qui aurait dû être la même, mais elle répond de ce fait non pas à l'excitation, à la réponse fréquentielle de la membrane basilaire, mais à l'inertie liée à la masse de la membrane tectoriale. Je reprends. Bon. Il existe, je vous l'ai dit, donc on voit qu'il existe un ensemble de rigidités, qu'il faut totalement oublier la vision que l'on avait jusqu'à très récemment de cette membrane tectoriale, comme une membrane homogène. Non. Elle a un certain nombre de rigidités, elle présente des gradients de rigidité, que ce soit dans le sens longitudinal, dans le sens radial ou dans le sens transversal. Bon. D'autre part, la question récurrente est comment est-elle impliquée dans le mécanisme de transduction, dans la stimulation de la cellule ciliée externe ? Cette cellule ciliée externe, dont la touffe ciliaire est ancrée dans la membrane pectorale, est activée par le déplacement de la membrane basilaire maximale en un point particulier le long de la membrane basilaire, établissant ce que l'on appelle la tonotopie cochléaire. Eh bien, la résonance de la membrane pectorale ne se situe pas au même niveau que celle de la membrane basilaire. Elle est décalée d'un demi-octave. Par conséquent, ce qui est proposé, c'est que la stimulation de la touffe ciliaire par la membrane pectorale et soit due à la masse de cette membrane pectorale. Deuxième élément, montré également récemment, cette membrane pectorale présente un deuxième pic de résonance. Et ce deuxième pic de résonance, il est effectif puisqu'on peut le lire sur le déplacement de la membrane basilaire. Donc, on voit à travers cela que l'image totalement simpliste antérieure du rôle de la membrane pectorale doit être remplacée par une image beaucoup plus sophistiquée et qui donne l'idée qu'en réalité, il existe une tonotopie, c'est-à-dire une réponse différente des cellules sensorielles le long de l'axe de la cochlée, une première tonotopie engendrée par la membrane basilaire et une deuxième tonotopie engendrée par la membrane pectorale. Alors, maintenant, j'aimerais dire un mot de l'apport de la génétique. Alors, et auparavant, souligner le fait que toutes ces expériences ont été faites in vitro et que ce qui est manquant à l'heure actuelle dans ces derniers éléments, enfin dans ces dernières données, c'est un retour à l'expérimentation véritablement ex vivo, analysant plus finement que ça a été fait jusqu'à présent ces mouvements de la membrane pectorale. Alors, la génétique de temps à autre, quand j'entends par la génétique, c'est-à-dire l'identification des gènes conduisant à une surdité chez l'homme, permet de mettre le doigt sur un certain nombre de molécules qui ont un effet, c'est-à-dire qui médient un effet connu. Pour accéder à ces effets et donc au rôle de ces molécules, on inactive chez la souris le gène, le même gène, le gène orthologue, à celui qui est responsable de la surdité chez l'homme. Et alors, on peut pratiquer un certain nombre d'expériences de physiologie qui nous permettent de voir les conséquences de la perte de la protéine correspondante. Alors ça, c'est un des aspects de la génétique, c'est-à-dire c'est un mode, disons, analytique, une approche de type top-down. Mais vous vous en doutez, les biologistes à travers l'approche génétique ont d'autres espoirs. Ils ont l'espoir de mettre le doigt sur un certain nombre de propriétés du système sensoriel auditif et en ce qui nous concerne la cochlée, qui, en dehors de ces approches génétiques, enfin, qui jusque-là passaient inaperçues. Pourquoi ? Parce que dans un certain nombre de situations, l'ablation, plutôt la perte d'un gène, donc la perte d'une protéine, se traduit, si l'on peut dire, par un effet pratiquement de bistouri et crée des situations expérimentales qui peuvent permettre d'accéder à des propriétés physiologiques de la cochlée jusque-là passées inaperçues. Alors, à ce jour, trois modèles animaux ont été réalisés par inactivation des gènes qui codent pour les tectorines alpha et bêta. Systématiquement, ce qui a été fait par Guy Richardson et Jan Russell a consisté à reproduire chez la souris les mêmes mutations que celles décelées chez l'homme, ce qui permet de procéder ensuite à une comparaison fine. Trois types de mutations ont été générées. Tout d'abord, une mutation dans le gène qui code pour l'alpha-tectorine. Et ce qui a été introduit, c'est une délétion dans ce domaine-ci, délétion qui maintient le cadre ouvert de lecture, c'est-à-dire la protéine peut, en quelque sorte, le gène peut encore coder théoriquement pour une protéine qui est simplement délétée de quelques acides aminés. La deuxième mutation qui a été créée, toujours dans le gène qui code pour la tectorine alpha, est non plus une mutation qui va être propagée à l'état récessif, mais une mutation dominante. C'est une mutation qui substitue un acide aminé pour un autre. Et la troisième est une inactivation complète du gène de la tectorine bêta. Alors, je vais juste sortir les éléments essentiels par rapport à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'avons-nous appris via ces modèles animaux. Alors, l'un des plus intéressants, me semble-t-il, c'est celui qui a été généré il y a déjà trois ans même, et dans lequel le premier, donc dans lequel une délétion est introduite dans cette région, la membrane tectoriale était totalement détachée du neuroépithélium sous-jacent. Elle flottait ou était collée dans l'espace supérieur sur cette membrane de Reissner qui limite le canal cochléaire. Donc c'était une situation expérimentale, quelque part un peu rêvée, si on fait abstraction du fait que la membrane tectoriale, ce n'était pas simplement une disparition de la membrane tectoriale, elle était toujours quand même dans l'espace du tube cochléaire, mais elle n'avait plus aucun contact avec le neuroépithélium. Eh bien, qu'a-t-on observé dans cette situation? Les cellules ciliées externes, on avait une perte auditive qui correspondait à ce que l'on attend de cellules ciliées externes qui cessent d'être stimulées par la membrane tectoriale. Mais un point tout à fait majeur qui a émergé est le suivant. Si on enregistre ce que l'on appelle les potentiels microphoniques, c'est-à-dire la réponse des cellules ciliées externes à la base de la cochlée, chez les souris sauvages, l'hyperpolarisation et la dépolarisation sont symétriques. Eh bien, lorsque la membrane tectoriale cesse d'avoir un contact avec le neuroépithélium sous-jacent, cette symétrie est perdue. Ce que l'on traduit de la façon suivante. J'ai plusieurs fois présenté les courbes courant déplacement, c'est-à-dire courant de mécanotransduction en fonction du déplacement de la touffe ciliaire. Et on observe systématiquement alors une sigmoïde et à un endroit donc de pente maximale se situe normalement le point opérateur, ce qui permet à la touffe ciliaire de travailler toujours en un site de maximum de sensibilité. Eh bien, lorsque la membrane tectoriale est absente, ce point opérateur se déplace. Voyons maintenant le changement d'un acide aminé pour un autre dans le gène qui code pour la tectorine alpha. Eh bien, dans ces conditions, on observait une membrane tectoriale bien en place. Mais son rapport avec les cellules ciliées internes, ici, était totalement anormal. Hein. Donc, vous voyez ici la région limbique interne, et donc, le rapport ici était totalement anormal. On observait une cavité très importante au-dessus de la cellule ciliée interne. Eh bien, dans ces conditions, le mode de stimulation de la cellule ciliée interne devenait différent. Le couplage qui existe normalement entre l'externe et l'interne était défectueux. Dernière inactivation, c'est celle du gène qui code pour la tectorine bêta. Alors là, c'est une situation très particulière. La membrane tectoriale garde un rapport normal avec le neuroépithélium sous-jacent à sa base, là où sont traitées les hautes fréquences. À l'apex, elle est détachée. Alors, que croyez-vous qu'il advient dans ces conditions ? Alors, je ne parle pas de la réponse aux basses fréquences. On l'a déjà quelque part traité tout à l'heure en parlant du mutant TECTA défectueux qui portait une délétion dans la région de la zona pellucida. Non, je parle de la réponse aux hautes fréquences là où la membrane tectoriale reste en place. Eh bien, en réalité, ce que l'on voit, c'est que la réponse des cellules sensorielles est beaucoup plus fine, beaucoup mieux accordée en fréquence. Alors, pourquoi cela ? Ceci a été interprété de la façon suivante. Les modifications de la membrane tectoriale sont telles qu'elle a perdu son élasticité. Il y a donc décroissance de l'onde qui la parcourt et donc une réponse beaucoup plus fine. Bon, de cet ensemble de situations, je pense que la plus informative, celle que l'on n'aurait pas pu déduire par, je dirais, en modélisant le mode de fonctionnement de la membrane tectoriale, est ce maintien du point opérateur. Alors, j'en viens maintenant à la synapse. Et donc, puisque le thème, c'est quoi de neuf, c'est quoi de neuf en ce qui concerne la synapse de la cellule ciliée interne. Alors, nous avons vu l'an passé la théorie dite duplex de localisation de la source sonore qui se fonde sur l'écoute binaurale et qui avait été proposée en 1907 par Lord Rayleigh. Selon cette théorie duplex, la localisation de la source sonore dans le plan horizontale, met en jeu deux mécanismes distincts selon le contenu spectral de cette source. Nous avons vu en particulier, c'est ce qui est illustré sur cette diapositive, que lorsque l'on a affaire à des sons de basse fréquence, c'est le temps qui sépare l'arrivée d'une onde sonore à l'une et l'autre oreille, abrégé en anglais ITD pour différence dans le temps d'arrivée du son à l'une et l'autre oreille, interoral time difference. C'est cette différence qui permet de localiser les sources sonores basse fréquence. Les calculs permettent de montrer que chez l'homme qui est capable de distinguer deux sources sonores distante de 2 degrés, l'une d'elles se situant dans l'axe du nez, en quelque sorte, ces calculs permettent de montrer que ceci n'est possible que si le système sensoriel auditif sait déceler des différences de temps de l'ordre de 20, même 12 microsecondes. C'est sur la base de ces éléments que l'on peut déduire que le système sensoriel auditif travaille avec une précision temporelle tout à fait inouïe. Et donc, Cette précision temporelle, elle doit exister depuis la première étape du traitement du signal sonore, c'est-à-dire depuis cette fameuse synapse dont nous allons parler. Alors, je vous rappelle que cette précision temporelle, elle est la base de l'analyse en fréquence, elle est la base de la conversion d'un signal venant de la cellule sensorielle, plutôt signal de la cellule sensorielle auditive, que je vais rappeler tout à l'heure, qui consiste en des cycles de polarisation et repolarisation synchrone au son, et le passage d'une information sur le nerf qui va donc rester toujours avec des décharges de potentiel d'action qui vont se situer toujours dans la même phase de l'onde sonore. Alors, précision temporelle, fidélité du traitement du signal, autre caractéristique, exocytose massive, puisque l'on estime que dans la cellule ciliée sensorielle, la cellule ciliée interne, environ 6000 vésicules synaptiques fusionnent par seconde. Autre caractéristique, c'est une synapse qui est particulièrement rapide et elle peut maintenir un certain niveau de décharge pendant une stimulation qui dure 1 à 3 secondes, ce qui implique qu'il y ait un mécanisme de reformation et de réapprovisionnement de la région synaptique particulièrement efficace. Voilà pour les caractéristiques fonctionnelles. Les caractéristiques morphologiques, c'est la présence de cette densité synaptique que vous voyez ici, que l'on appelle ruban, associé à la zone active, ruban auquel sont associés des vésicules synaptiques au nombre de 100 à 200. Ces rubans, il en existe de 5 à 30 par cellule sensorielle auditive. Et l'innervation de cette cellule sensorielle auditive est tout à fait particulière. Chaque ruban peut se concevoir comme une petite machine. En face de chaque ruban, entouré donc de ces vésicules, une zone active, une seule, lorsque la synapse est mature, due à la présence du dendrite d'un neurone afférent. Et chaque neurone afférent est bipolaire, c'est-à-dire que chaque neurone afférent ne contacte qu'un seul ruban synaptique. Alors, je vais dire maintenant quelques mots d'actualité en ce qui concerne le mode de fonctionnement de cette synapse. Alors, auparavant, il s'agit ici d'une donnée ancienne, mais qui n'a pas pris de ride. Voici ici, en cryofracture, la région présynaptique d'une cellule sensorielle dans le sacule de grenouille. Et ce que vous voyez, ces ensembles de points représentent les canaux calciques dépendants du voltage qui vont s'ouvrir lorsque la cellule se dépolarise. La touffe ciliaire est stimulée. Potassium et calcium entrent dans la cellule, elle se dépolarise. Suite à la dépolarisation, les canaux calciques dépendants du voltage s'ouvrent, mais en association avec ces canaux calciques, au stade mature, vous avez des canaux potassiques qui sont dépendants du calcium. Le calcium entrant, ces canaux potassiques vont immédiatement s'ouvrir, ce qui permet à la cellule de se repolariser. Alors, vous voyez que ces deux types de canaux sont très liés Ils sont donc au nombre, ils ont été estimés au nombre, je crois, d'une quarantaine en ce qui concerne les canaux voltage dépendants et de 90 en ce qui concerne les canaux potassiques. Alors on sait plus dans d'autres systèmes. Dans d'autres systèmes, il a été montré que les associations de ces canaux calciques et de ces canaux potassiques dépendants du calcium sont telles qu'ils forment en réalité des complexes, ce qui permet donc cette repolarisation extrêmement rapide. Alors, cette cellule peut donc décharger continuellement si on la stimule, à taux bas, mais elle peut décharger continuellement. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que ces canaux potassiques dépendants du voltage sont peu sensibles ou s'inactivent à peu près pas. Alors, ces canaux sont appelés canaux de type L. Paradoxe, ces canaux comportent une sous-unité que l'on retrouve également au niveau cardiaque et qui sert à la conduction cardiaque, que l'on appelle une sous-unité alpha-1D. Or, paradoxe, cette sous-unité est très inactivable par le calcium. Alors la question qui vient, comment la cellule ciliée interne transforme-t-elle un canal dont on sait qu'il doit être très sensible à l'inactivation calcique, un canal qu'il est peu? Eh bien, cette sous-unité alpha-1D porte une région dite IQ, qui est un domaine qui a la capacité de se lier à des molécules qui elles-mêmes lient le calcium. Et en particulier, ce domaine se lie à la calmoduline. Suite à la liaison à la calmoduline, il y a inactivation du canal. Alors me direz-vous, il n'y a pas de calmoduline dans cette cellule? Si, la cellule sensorielle auditive, dont la gestion est principalement une gestion du calcium, calcium arrivant à l'apex, calcium arrivant au niveau synaptique, comporte bien sûr de la calmoduline. Elle en comporte beaucoup, puisqu'elle a une densité de moteurs qui parcourt l'actine, qui est extrêmement importante, et qui lie la calmoduline. Alors, ce qui a été mis récemment en évidence, c'est le fait qu'il existe, au niveau de la synapse, deux membres, dont un principal, qui appartiennent à la famille des protéines qui lient le calcium et qui sont dites de type calmoduline. Alors, ces protéines, que l'on appelle CABP, dans ce cas-ci 1 et 4, sont bien capables, cela a été montré, de se lier à cette sous-unité alpha-1D. Mais pour autant, elles ne transmettent pas le signal calcique au canal. Donc, en fait, que se passe-t-il au niveau de la synapse? Eh bien, il se passe une compétition entre la calmoduline libre, si tant est qu'il y en ait, et donc ces molécules capables, elles aussi, de lier le calcium, capables, elles aussi, de lier la sous-unité alpha-1D, mais qui seront absolument incapables d'inactiver le canal. Alors, voilà pour le canal. Maintenant, j'aimerais brièvement aborder un autre point. Le calcium entre par ce canal, donc, qui n'est pas inactivable en conditions physiologiques. Ce que nous allons voir tout au long de cet exposé, c'est le problème de la gestion locale du calcium. Le calcium entre, il doit gagner ce que l'on appelle un senseur du calcium, qui va en quelque sorte déclencher la fusion synaptique, c'est-à-dire rendre opérante la machinerie de fusion de la vésicule synaptique avec la membrane plasmique. Alors, les senseurs du calcium, quels sont-ils? Eh bien, ils appartiennent jusqu'à présent, sans discussion, tous à la famille des synaptotagmines. C'est-à-dire, alors, ce sont des protéines qui, contrairement à celle qui est présentée là, ont n'ont que deux domaines de type ici C2 qui lie le calcium, mais ont en commun avec cette protéine-ci d'être des protéines transmembranaires et qui se situent à la surface des vésicules. Eh bien, jusqu'à présent, il existe une interrogation en ce qui concerne la cellule ciliée interne. Il n'a pas été mis en évidence les deux synaptotagmines canoniques que l'on retrouve dans les synapses conventionnelles, les synaptotagmines 1 et 2. En revanche, une autre protéine apparentée, a été nommée ici autoferline, a été mise en évidence. Elle comporte 4 domaines C2 additionnels par rapport à la synaptotagmine. Son rôle dans l'exocytose est établi dans l'exocytose synaptique en son absence chez l'animal dont le gène qui code l'autoferline a été inactivé, il n'y a pas d'exocytose synaptique. Voilà. Alors maintenant, comprendre la fonction de transfert entre la cellule ciliée interne et le neurone nécessite de comprendre la façon dont fonctionnent les canaux calciques dépendants du voltage. Il nécessite de comprendre la dynamique de ces canaux. Il nécessite d'avoir des idées sur, plus que des idées, des précisions sur les substances tampons du calcium qui doivent exister à proximité de la synapse. Quand je dis d'avoir des idées, c'est-à-dire de connaître leur nature, leur affinité et la vitesse avec laquelle il lie le calcium. Alors, on a coutume, quand on parle des molécules qui ont effectivement une affinité pour le calcium, souvent de ne discuter que l'affinité et le nombre de sites de liaison et le mode de site de liaison. Est-il linéaire ou coopératif? Pourtant, ici, ce qui nous importe essentiellement, c'est l'aspect dynamique, c'est-à-dire ces tampons lorsque le flux calcique entre dans la cellule, réagissent-ils suffisamment vite pour, en quelque sorte, cantonner la concentration calcique élevée dans la petite région de la zone synaptique. Alors, juste pour illustrer l'importance de cette notion de vitesse, si vous ne vous intéressez qu'à l'affinité, l'affinité représente un état d'équilibre, c'est-à-dire dans un état donné, quelle est la fraction, par exemple, en ce qui nous intéresse, du calcium qui va être lié à la substance tampon versus libre. Mais ceci ne vous dit pas si l'état d'équilibre a été atteint en une microseconde ou en une semaine. Bon, je caricature, hein. Eh bien, c'est tout à fait essentiel pour comprendre cet aspect donc, de dynamique de la synapse. Et je reviendrai sur deux tampons du calcium qui sont couramment utilisés pour explorer la dynamique synaptique, qui sont le BAPTA et le GTA. Alors, ces deux composés fixent le même nombre d'ions calciques, ils ont la même affinité pour le calcium, mais leurs constantes de temps sont très différentes. Le BAPTA se lie 100 fois plus vite au calcium que le GTA. Donc vous allez voir l'utilisation que l'on peut en faire pour explorer la synapse. Alors, jusqu'à l'année 2007, à une exception près, je vais tout de même vous montrer la synaptotagmine. Ici, le complexe de fusion entre la vésicule synaptique et la membrane présynaptique, avec donc la machinerie, en quelque sorte, de l'exocytose et la synaptotagmine qui, liant le calcium, vient déclencher l'événement d'exocytose. Alors, jusqu'à présent, lorsqu'on voulait s'intéresser à l'exocytose de la cellule ciliée interne, la plupart des expériences, des approches utilisées était fondée sur les mesures de capacité de la membrane. Alors, les membranes biologiques ont une capacité électrique passive, une capacité qui varie avec le transfert de charge, qui est lui-même en rapport avec la surface de la membrane. Donc, ce qui était proposé en 1982 par Edwin Neher et par Alain Marty, c'est que l'on pourrait utiliser les mesures de changement de capacité membranaire pour évaluer les changements de surface de la cellule et donc pour évaluer l'exocytose qui va augmenter la surface de la cellule ou l'endocytose qui va la diminuer. Et aujourd'hui, on a une correspondance bien établie entre la vésicule synaptique et la capacité membranaire que produit sa fusion qui lui est associée et qui est de 32 attofarades, donc une toute petite variation. Je vais y revenir. L'inconvénient de cette technique, très répandu, on peut en voir quatre. Le premier, c'est que cette mesure de variation de capacité membranaire est en réalité la résultante de deux mécanismes opposés. Le mécanisme d'exocytose, qui augmente la surface membranaire, le mécanisme d'endocytose, et souvent, ils ont lieu de façon concomitante, qui la réduit. Donc, pas simple d'attribuer une variation de capacitance membranaire à l'exocytose uniquement. Sauf si on s'intéresse aux événements initiaux extrêmement rapides après la dépolarisation, où là, le premier événement est l'exocytose. Deuxième problème. Rien ne vous dit que lorsque vous déclenchez par dépolarisation la fusion d'une vésicule avec une membrane, que ce que vous suivez est exclusivement la fusion des vésicules synaptiques. Troisième problème, ce que vous mesurez, c'est la réponse globale de la cellule. Vous n'avez aucun accès aux réponses de chacune des synapses. Or, elles peuvent, dans une situation quelconque, elles peuvent être extrêmement hétérogènes, vous ne le verrez pas, et elles peuvent éventuellement se compenser. Quatrième problème, c'est la sensibilité de la technique. Elle ne détecte au plus bas que le femtofarad, c'est-à-dire le 10 puissance moins 4 farad, 15 farad. Par conséquent, son seuil de détection, c'est 30 vésicules fusionnées. C'est relativement élevé. Alors, une autre technique a été développée. Alors, ceci illustre les changements, avec l'animation, de capacité membranaire lorsque l'on dépolarise la cellule, entrée de calcium, fusion, changement de la capacité membranaire. Une autre technique a été développée. Elle fait suite à une technique déjà développée par Elisabeth Glowacki, publiée, comme vous le voyez ici, en 2002, qui consiste, ici vous avez la cellule sensorielle auditive, la cellule ciliée interne, ses afférences, et ce qui avait été développé, c'est l'enregistrement des courants postsynaptiques au niveau de l'extrémité dendritique, c'est-à-dire au niveau du bouton synaptique. Ici, la cellule ciliée interne, là le bouton. Cet enregistrement va être complété par un enregistrement présynaptique. Vous voyez ici les deux pipettes de patch, celle-ci au niveau de l'interne, celle-ci au niveau du bouton. Alors, avec un tel dispositif, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut mesurer en parallèle les variations du courant calcique déclenché par la dépolarisation de la cellule et le courant postsynaptique. Et ceci peut être fait extrêmement rapidement, contrairement à la capacitance pour laquelle vous avez l'événement de dépolarisation et ensuite vous enregistrez la capacitance. Et l'événement de dépolarisation n'est pas moins de 2 millisecondes. Ici, ceci peut être fait en parallèle. Alors maintenant, je vais rapporter quelques résultats très récents qui vont permettre de situer un peu plus précisément les propriétés physiologiques de cette synapse entre la cellule ciliée interne et le neurone afférent. Alors, ce qui a été fait dans un premier temps, c'est de regarder ce qu'est la réponse postsynaptique si on applique un saut de potentiel. Alors, on s'aperçoit qu'il y a d'abord un événement, un courant, puis ensuite de ça, un petit nombre, c'est un certain nombre de courants qui se maintiennent pendant tout le temps de la dépolarisation. Si maintenant on moyenne les réponses de ce type sur plusieurs enregistrements, eh bien on voit qu'il existe d'emblée un pic très important, puis ensuite de ça, donc un arrêt des décharges sur le neurone auditif. D'où vient cet effet que l'on peut dire d'adaptation de la réponse? S'agit-il d'un effet lié à la chute d'entrée du calcium? Eh bien, la réponse, vous l'avez ici, non. Vous voyez que le courant calcique, à peu de choses près, se maintient. Alors, peu de choses près, ce n'est pas tout à fait suffisant pour éliminer ce paramètre, mais la baisse du courant est environ de 20%. Or, l'effet ici est d'environ 90 à 95%. Alors, si on cherche une relation linéaire entre le courant calcique et cette baisse rapide, donc d'adaptation, elle ne peut pas exister. Si par contre, on cherche une relation non linéaire, est-ce qu'elle peut exister? Ce qui a été calculé, c'est non. Parce que cette relation linéaire, on sait dans d'autres types d'expériences que la non-linéarité qui existe au niveau de la cochlée, c'est-à-dire ne dépasse pas, n'est pas d'un ordre supérieur à 4 à 5, et donc cet ordre de 4 à 5 ne peut pas rendre compte, ne permet pas de rendre compte de cette adaptation par la diminution du courant calcique. Alors, quelle autre explication? Eh bien, une des explications qui vient bien sûr à l'esprit, c'est de se dire que les récepteurs du glutamate qui va être libéré par la cellule sensorielle, les récepteurs postsynaptiques du glutamate, ceux qui répondent rapidement, les récepteurs AMPA, se désensibilisent très rapidement. Et de ce fait, la réponse sur le nerf devient très vite inexistante. Eh bien, ceci est très facile à tester. Il suffit d'utiliser la cyclothiazide qui empêche la désensibilisation du récepteur. Que voit-on dans cette situation? Une réponse qui n'est pas totalement identique à la réponse en l'absence de désensibilisation, et ceci est schématisé ici, le contrôle est en présence de la cyclothiazide, mais tout de même, l'adaptation du courant se maintient. Donc, on est amené à conclure que l'adaptation du courant postsynaptique n'est pas due à la désensibilisation des récepteurs AMPA ni à la baisse légère de l'entrée du calcium lorsque la dépolarisation se maintient. Alors, d'où vient-elle? Eh bien, ceci fait partie des questions à résoudre. Bon. Alors, on peut tirer de ces enregistrements d'autres types d'informations. Si on moyenne les courants postsynaptiques, et cette fois-ci systématiquement en présence de cyclothiazide pour se débarrasser de l'effet de désensibilisation des récepteurs AMPA, eh bien, de l'analyse de ces courbes, on peut voir qu'il existe plusieurs constantes de temps de relargage des vésicules synaptiques. Alors ça, c'est une notion que j'avais déjà introduite avec la capacitance, où ceci est vu également. Avec la capacitance, ce qui avait été montré par Tobias Moser, c'était l'existence d'une exocytose rapide suivie d'une exocytose lente. La première s'étageant sur environ 3 millisecondes et la seconde sur une centaine de millisecondes. Eh bien ici, il semble que l'on accède à... que l'on mette en évidence des constantes de temps par l'analyse des courbes correspondantes qui indiquent trois modes de fusion, en tout cas trois constantes de temps distinctes d'exocytose, 2 millisecondes, 18 millisecondes et près de 200 millisecondes. Donc, ce qui est intéressant à retenir, c'est que par cette technique, on accède aussi à la vitesse d'exocytose et la façon dont sont composés les différents pics d'exocytose que je vais maintenant détailler. Alors, dans une mesure de capacitance, vous avez un chiffre, c'est un chiffre global, hein, qui vous dit donc que vous avez simplement changé la surface membranaire. Ce que permet, et on va le voir, l'enregistrement postsynaptique, c'est en réalité de visualiser chacun des événements unitaires et de les visualiser dans le temps. C'est-à-dire, vous allez pouvoir voir la forme des décharges, des courants postsynaptiques. Alors, ceci permet d'une part d'analyser la forme de ces courants et d'autre part de voir comment ils varient, en particulier comment ils varient lorsque varie l'entrée de calcium. Alors, la forme de ces pics, ce n'est pas très illustratif ici, mais dans d'autres expériences, on le voit assez bien, n'est jamais une onde monophasique qui indiquerait la fusion d'une vésicule unique. C'est toujours des pics complexes. Ce qui a été interprété comme indiquant l'existence de fusions multivésiculaires dont le nombre est variable, mais qui représente environ 35% des événements de fusion chez le rat. Alors, que voit-on si maintenant on fait varier l'entrée du calcium ? Pourquoi cette question est-elle importante ? Derrière cette question, il s'agit de répondre à la façon dont cette synapse gère à la fois une réponse fréquentielle qui doit être extrêmement précise, puisque c'est cette information qui va être transférée au centre supérieur, qui va permettre l'analyse fréquentielle le long de tout le système auditif et la localisation de la source sonore dans le plan horizontal. Donc, une information qui devra rester précise et en même temps, dans le code, on doit quelque part trouver la trace de l'intensité. Alors, d'une façon générale, dans les synapses conventionnelles, quand l'intensité de la stimulation augmente, le courant calcique augmente, ce que l'on a, c'est une vitesse de décharge, disons, ou plutôt une amplitude des décharges, qui devient beaucoup plus grande. Ici, ce que l'on voit, c'est que lorsque le courant calcique augmente, eh bien, en parallèle, la moyenne des réponses augmente également. Mais si on s'intéresse aux événements unitaires, eh bien, ils ne bougent pas. Qu'est-ce qui bouge alors ? Eh bien, puisque l'on a une réponse moyenne, si on la moyenne sur une seconde qui devient plus grande, ce qui bouge, en réalité, c'est la fréquence des décharges de courant. Donc, vous pouvez vous imaginer cette cellule sensorielle auditive, à la suite de ces travaux, comme ayant un mécanisme de fusion extrêmement des vésicules synaptiques, extrêmement robuste, est constant, accordé sur la fréquence sonore et qui, lorsque l'intensité de stimulation augmente, ne varie pas dans son événement élémentaire, mais varie dans les fréquences des pics, donc l'événement, la probabilité de survenue de l'événement augmente. Alors, vous auriez pu conclure de ce que j'avais dit auparavant, que à chaque, si ceci est possible, c'est parce que chaque événement de dépolarisation de la cellule ne se traduit pas, donc les événements de dépolarisation, ils suivent les sources sonores, ici sont figurées les décharges de potentiel d'action, et bien à basse intensité, il n'y a pas décharge des potentiels d'action pour chaque pic de dépolarisation. Lorsque une fibre va décharger, par exemple, ici, cette autre fibre qui vient également du même ruban va décharger dans la même phase, mais à un autre cycle, et c'est donc ensemble que les fibres reconstituent la décharge, le cycle sonore. Eh bien, que se passe-t-il lorsque l'intensité s'élève? Eh bien, on peut schématiser ceci en disant qu'au maximum d'intensité, la fibre décharge cycle par cycle avec le son. Donc ça, c'est une propriété qui est tout à fait singulière et qui concentre aujourd'hui beaucoup d'efforts de la part de la communauté scientifique. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la relation entre l'importance du courant calcique, l'amplitude du courant calcique et la décharge. Alors, je reviens aux résultats récemment obtenus. La question qui est importante, c'est quel est le type de rapport qui existe entre l'amplitude du courant calcique et l'importance de l'exocytose. Là, je parle de l'importance de l'exocytose moyenne. On peut traduire la probabilité d'exocytose. Alors, ceci a été étudié et a donné le résultat suivant. On va augmenter le courant calcique en changeant le potentiel de membrane de la cellule ciliée interne. Ceci est schématisé ici. Lorsque le potentiel s'élève de moins 49 à moins 29, on a une baisse du courant calcique. Que se passe-t-il? Eh bien, l'exocytose varie en parallèle. Et elle varie de façon linéaire. Donc, ceci nous dit, nous avons affaire à une synapse qui travaille de façon linéaire. Et là, véritable paradoxe. Pourquoi? Parce que d'autres expériences, faites sur une autre façon, ont eu tendance à conclure qu'il n'y avait que le rapport entre l'exocytose synaptique et le courant calcique n'était pas linéaire, mais était dans un rapport, était donc non linéaire et décrivait une loi, enfin suivait une loi de puissance 3,5 à 5. Hein? Donc, je reprends. Ici, donc, on a dépolarisé la cellule, on a, je crois que je l'ai dit à l'envers, augmenté le courant calcique et on a augmenté l'exocytose, un rapport de 1. Alors, ceci correspond tout de même à ce qui a été vu chez un autre rongeur à l'âge adulte, mais pose donc la question de comment rendre compte de ces données de linéarité physiologique avec le fait que d'autres données indiquent un rapport entre le flux calcique et l'exocytose, qui est donc un rapport non linéaire. Alors, quelles étaient ces autres données? Ce sont des données qui avaient été obtenues par changement de la concentration calcique dans la cellule ciliée interne. Ceci peut se faire de la façon suivante. On utilise ce que l'on appelle du calcium encagé qui va être libéré par photolyse. Et on obtient ainsi des concentrations de calcium, différentes concentrations de calcium, et en mesurant alors la variation de la capacité membranaire en fonction des changements de concentration calcique, on obtenait une réponse non linéaire. Alors il s'agissait d'expériences donc, qui avaient été faites sur un certain mode, chez d'autres animaux. Ce qui a été fait récemment, c'est donc de s'interroger sur le fait que dans cette espèce-ci, on est chez le rat, est-ce que, oui ou non, on peut avoir une réponse physiologique linéaire et un senseur calcique qui fonctionne de façon non linéaire. Et là, l'expérience qui a été faite est assez astucieuse. Dans la gamme de voltage que je mentionnais tout à l'heure, moins 49 à moins 29, où donc le courant calcique augmente, il augmente parce que la probabilité d'ouverture des canaux calciques augmente. Mais si on s'intéresse maintenant à des dépolarisations beaucoup plus importantes, on va vers les potentiels positifs. Alors là, on ne joue plus sur la probabilité d'ouverture des canaux calciques. Ils sont tous ouverts. Mais selon la positivité du potentiel, le flux calcique va être plus ou moins important. Vous le voyez ici, à plus 11 millivolts, il est très important, il baisse lorsque l'on atteint plus 41 millivolts. Par conséquent, on est là dans une situation expérimentale qui contourne en quelque sorte le problème de la dynamique et le problème des canaux calciques et qui directement, par la même technique, va s'interroger sur la relation qui existe entre la concentration calcique et l'exocytose. Et ce qui est décrit ici en bas montre que dans ces conditions, on a une relation qui est non linéaire. Pour résumer, l'ensemble des données indique que le senseur calcique de la cellule ciliée interne travaille de façon non linéaire. La puissance ici indiquée 3,5 à 6 indique que vraisemblablement, il peut fixer 3 à 4 ions calcium de façon coopérative. Pour autant, dans des conditions physiologiques, celles que vous voyez ici, la synapse travaille dans un rapport linéaire entre l'entrée de calcium et l'exocytose. Alors, le temps passant, je crois que... Alors, ce que je voulais dire, c'est que quelque part, l'ensemble des données répondent à une observation il y a plus de 40 ans et qui montrait que lorsque l'on faisait varier l'intensité l'intensité sonore, les types de décharges que l'on obtenait étaient les mêmes sur, enfin la réponse du nerf auditif ne subissait pas d'avance due à une exocytose qui aurait été massive. Alors je voudrais quand même insister sur le fait suivant. C'est que cet enregistrement pré- et post-synaptique redresse une conclusion de la littérature qui était là il y a encore pas moins de 3-4 ans, conclusion qui s'appuyait sur les mesures de capacitance et qui, parce qu'elle avait observé une augmentation de la capacitance en fonction de l'augmentation du courant calcique avait conclu que, de fait, l'augmentation de l'intensité se traduisait par une augmentation bien très importante de l'exocytose synaptique à chaque événement. Donc, s'il y a une chose à retenir, l'événement est fixe, ne change avec l'intensité du courant calcique que sa probabilité d'apparition. Alors, Ce qui nous intéresse donc maintenant, c'est avec ces données de pouvoir interpréter la façon dont doit marcher la synapse. Eh bien, il y a deux théories en ce qui concerne le fonctionnement synaptique. L'une qui est dite de nanodomaine et l'autre de microdomaine, et qui sont figurées ici. En A, l'idée d'un contrôle de l'exocytose synaptique sur la base de nanodomaines, de synapses organisées en nanodomaines. Dans cette hypothèse, on imagine que le canal calcique est situé en proximité immédiate d'une vésicule synaptique. Et donc que par conséquent, dans la gamme physiologique qui nous intéresse, eh bien, dès qu'un canal s'ouvre, la vésicule va fusionner. Et donc, dans ce contexte, on attend une réponse linéaire dans des conditions physiologiques entre le courant et l'exocytose synaptique. Ce qui vient d'être observé donc au niveau des travaux que je vous ai rapportés effectués chez le rat indiquerait donc que la synapse fonctionne bien sous un mode nanodomaine. Alors, l'autre modèle, c'est le modèle microdomaine, dans lequel, comme vous le voyez ici, vous avez figuré ici les vésicules synaptiques en bleu et en rouge, rouge quand elles s'activent, bleu quand elles s'inactivent, les petits points ici qui représentent les canaux calciques, qui ne sont plus maintenant en immédiate proximité un à un avec chaque vésicule, mais la décharge d'une vésicule dépend de la concentration locale de calcium qui s'est élevée, qui dépend elle-même de l'aspect de coopération des différents canaux qui réussissent à monter la concentration calcique au-dessus d'une valeur critique. Eh bien, dans ce modèle-là, on n'attend pas une linéarité entre le courant et l'exocytose. Donc, pour l'instant, l'ensemble des résultats dont je vous ai parlé plaide en faveur d'une organisation de la synapse des cellules sensorielles en nanodomaine. Et donc, on peut extrapoler à l'existence d'un ruban synaptique avec un ou quelques canaux calciques dépendant du voltage, et donc à proximité le canal potassique dépendant du calcium, et ces unités donc s'ouvrant avec une certaine probabilité selon la dépolarisation. Alors je dirais que tout irait très bien s'il n'y avait pas une observation que je vais brièvement mentionner, qui est la suivante. On différencie la microdomaine et nanodomaine dans la littérature, non seulement avec ce rapport linéaire, mais avec un autre type d'observation, qui est le fait que les vésicules étant toutes proches du canal dans le modèle nanodomaine, si on perfuse la cellule avec un tampon du calcium de type BAPTA, dont la vitesse de liaison est considérable, eh bien, on va inhiber cette fusion. Mais si on perfuse avec de l'EDTA, ce tampon calcique lent, on n'a aucun effet sur la libération dans une organisation microdomaine, nanodomaine, pardon. Alors que dans une organisation microdomaine, on aura un effet par ce chélateur lent, parce que la distance entre le canal et la vésicule est plus grande. Eh bien, ce qui est observé, qui pose question, c'est le fait que dans la cellule ciliée interne, on inhibe l'exocytose avec le BAPTA, ceci va très bien avec la structure en nanodomaine, mais on l'inhibe aussi partiellement avec le GTA. Donc, voici la contradiction qui existe. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à parler de contradiction. Ce que l'on peut dire, c'est que si on utilise les mêmes modes de calcul qu'habituellement pour déduire la distance de la vésicule à la bouche du canal, compte tenu des concentrations de GTA qui sont nécessaires, on est amené à conclure que vésicule et canal sont à une distance de 23 nanomètres. Alors, j'aimerais maintenant d'un mot généraliser ces conclusions. Alors, donc la question qui se pose, est-ce que cette fusion multivésiculaire, elle existe chez le rat, chez la souris, existe-t-elle chez d'autres espèces ? En particulier, existe-t-elle dès que l'audition apparaît ? D'autre part, est-ce que cette réponse linéaire est bien une constante, c'est bien une caractéristique du système auditif durant l'évolution ? Eh bien, toutes ces questions, on peut aujourd'hui répondre oui par des expériences voisines qui ont été effectuées dans le sacule de grenouilles et qui ont permis de conclure, 1. Oui, il existe des fusions multivésiculaires en raison de la forme de ces courants qui ne sont pas du tout monophasiques, mais contrairement à ce que l'on observe chez le rat et la souris, ils ne représentent que 5% des événements. Oui, il existe une relation linéaire entre l'exocytose et le courant calcique. Donc, on a là affaire à une propriété très générale. Et puis, si on s'intéresse au rôle du calcium sur les événements unitaires, eh bien, de même ici, on va voir qu'en fonction de la dépolarisation, la forme des pics ne change pas, mais leur fréquence change. Alors, on en vient donc à cette question qui agite beaucoup la communauté scientifique de l'exocytose multivésiculaire. Alors, j'aimerais dire mon sentiment, je ne pense pas que cette question soit si importante qu'on veuille bien le dire. Quel est l'intérêt d'une exocytose multivésiculaire ? Elle est effectivement que l'on va pouvoir obtenir une décharge massive et donc augmenter la probabilité pour le glutamate de se fixer au récepteur en pas sur la région postsynaptique. Elle est aussi que l'infusion multivésiculaire, qu'il s'agisse d'une fusion multivésiculaire réalisée en amont et cet ensemble de vésicules venant fusionner ensuite ou qu'elle se réalise en quelque sorte in situ, favorise des décharges bien synchrones. Mais pour autant, cette fusion multivésiculaire n'est pas du tout une spécificité de ces cellules. On la trouve dans un grand nombre de cellules, dont vous avez ici la liste, qui ne sont pas du tout des cellules neuronales. Il s'agit d'un certain nombre de cellules sanguines, de cellules du pancréas, bon, des cellules qui exocytent massivement. Donc, avec deux modes qui ont été décrits, soit un mode dans lequel les vésicules fusionnent en avant, en amont, puis viennent fusionner avec la membrane plasmique, ou il en est une qui leur sert en quelque sorte de guide, qui vient fusionner, et on évite de ça, on a une fusion séquentielle. Alors, donc, voilà les intérêts que je vois à cette fusion multivésiculaire, mais il me paraît beaucoup plus important de résoudre la question majeure qui est celle de la précision temporelle de l'exocytose synaptique. Même si le fait que ce soit multivésiculaire, ça y contribue, la question est comment l'événement déclenchant est-il si précisément mis en œuvre. Alors, ces fusions multivésiculaires, elles n'ont pas été véritablement établies au niveau du ruban cochléaire. Pour autant, un papier publié cette année dans le neurone bipolaire de la rétine, qui comporte lui aussi des rubans, a montré ces larges figures, donc à proximité du ruban, que certains veulent interpréter comme des événements de fusion multivésiculaire avant la fusion avec la région présynaptique. Il n'en demeure pas moins qu'il est toujours difficile de faire la part de l'exocytose versus l'endocytose et pour certains, ces fusions multivésiculaires ces grandes vésicules pourraient être en rapport avec des événements d'endocytose. Alors voici ici le schéma, malgré tout, qui persiste dans la communauté et qui voudrait donc qu'il y ait un ensemble de fusions multivésiculaires. Alors, je vais tout de même d'un mot revenir sur des expériences dont vous voyez que, vous allez voir, elles ne sont pas véritablement des expériences récentes, mais les questions qui y sont associées demeurent importantes. Le calcium rentre, il doit trouver le senseur calcique à une certaine distance, avec une certaine concentration. Celui-ci travaille de façon non linéaire, il fixe 3 à 4 ions calciques et il doit également travailler rapidement puisqu'on a une exocytose particulièrement rapide. Pour autant, il faut limiter le champ du calcium et c'est là qu'interviennent les substances tampons du calcium. Alors, une très belle expérience avait été faite en 1993 qui montrait, qui établissait l'existence de ces tampons calciques. Elle se fondait sur la comparaison des résultats obtenus lorsque l'on mesure les courants potassiques, soit en patch clamp en configuration dite cellule entière, soit en patch clamp perforé. Qu'est-ce qui différencie ces deux méthodes ? Dans la méthode patch clamp cellule entière, vous avez donc vous scellez la pipette de verre. Donc cette jonction ici est totalement imperméable et vous allez en quelque sorte par aspiration éliminer ce petit morceau de membrane. Dans la méthode de patch perforé, vous voyez ici la pipette qui vient en quelque sorte aspirer une région de la membrane, qui subit un traitement qui permet de la perforer, mais qui la perfore de telle façon que seules les ions et les toutes petites molécules peuvent diffuser. Eh bien, ce qui avait été observé par Roberts en 1993, c'est le fait que les courants ne sont pas les mêmes selon que l'on pratique des enregistrements de patch en configuration cellule entière ou bien patch perforé. Ils ne sont pas les mêmes. Ici, voici la réponse en patch perforé et voici ce que devient la réponse en configuration cellule entière. Elle est donc beaucoup plus importante, d'où il en avait déduit qu'il existe des tampons du calcium au niveau synaptique qu'ils peuvent diffuser. Et l'un des thèmes de recherche actuels est véritablement d'établir quels sont les tampons du calcium qui sont présents au niveau de la cellule sensorielle, quelles sont leur affinité, quelles sont leurs distributions, quelles sont les vitesses avec lesquelles ils fixent les tampons du calcium. Alors, je vais arrêter là. Et simplement, pour vous dire que ce que je vous ai indiqué, à travers ce que je vous ai indiqué, vous pourriez conclure aujourd'hui au fait que à chaque fois que des mesures ont été faites en capacitance, les données qui pouvaient raisonnablement être extrapolées ont été vérifiées par cette mesure de double patch. En particulier, le nombre des vésicules tel qu'on peut le déduire par variation de capacité ou par ses courants postsynaptiques est totalement cohérent. On peut dire que sur une seconde, 6000 vésicules peuvent fusionner par les deux types de techniques. Pourtant, lorsque l'on peut approcher certaines propriétés par les deux méthodes, eh bien, on n'est pas aujourd'hui capable de dire si les résultats sont totalement en accord. Pour une raison que je ne m'explique pas, tantôt, certains groupes n'approchent la fonction de la synapse que par capacitance, certains groupes ne l'approchent que par capacitance, mesure de capacité, et d'autres exclusivement par mesure des courants postsynaptiques. Donc, on n'a pas véritablement le moyen de confronter les données en ce qui concerne non pas ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la linéarité, mais en ce qui concerne la dynamique de développement de cette synapse. Pourquoi ? Cette synapse, la synapse dont je vous ai parlé, c'est la synapse mature. À un stade précoce, elle ne fonctionne pas dans un rapport linéaire au calcium, mais dans un rapport non linéaire en puissance de 4 à 5. Or, si l'on extrapole les résultats de la capacitance et les résultats du double patch, au stade mature, tout est cohérent, mais par contre, ça ne l'est pas au stade développemental. Par conséquent, je crois qu'il y a urgence à ce que certains fassent en parallèle, durant le développement, les mesures de capacité membranaire et les enregistrements post-synaptiques, parce que s'il y avait de fait discordance, on pourrait s'interroger sur l'origine de ces discordances et la rechercher sans doute dans la réponse post-synaptique. Merci de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.